RMC. Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Bonjour à tous, je vous propose d'écouter la nouvelle compilation des meilleurs moments de Lahaye, l'amour et vous. Mais tout de suite, revenons sur les aventures d'un soir. Elles sont bonnes, elles sont mauvaises, est-ce que c'est une bonne idée? Ça dépend pour qui. Et alors j'ai aussi demandé aux femmes si ça leur est arrivé. Eh bien, il y a Nathalie qui visiblement assume tout à fait. Bonjour Nathalie.
Bonjour Brigitte, bonjour Michel.
Bonjour Nathalie.
Oui, j'assume.
Ben, vous avez bien raison, voilà. Nathalie. Hein.
Mais c'est pas systématique, en fait, dans ces relations. On peut être touché par quelqu'un et avoir envie de le revoir. Donc, ça change un peu la donne sur les intentions premières.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit, tiens, ce soir, j'ai envie de me faire un mec. Et puis, si ça s'est bien passé, s'il y a eu quelque chose, pourquoi pas le revoir, quoi.
Tout à fait. Il n'y a pas de règle, en fait, je pense. Il n'y a pas de règle parce qu'on peut tomber sur quelqu'un qui, de prime abord, en parlant virtuellement avec lui, peut s'avérer tiède, on va dire. Et peut-être même pas à mon goût physiquement. Mais il y a un truc qui fait que ça m'est arrivé une fois d'aller au-delà de mes préjugés et je n'ai pas regretté.
C'est quoi, vos préjugés?
Très bon amant et donc que je revois de temps en temps et je ne regrette pas. Et c'est vrai que quand on dit faut pas s'arrêter au physique, c'est vrai, et en même temps c'est pas toujours facile de dépasser ça.
Bah surtout quand on y va pour un soir, quoi. On part sur l'idée d'un one shot et puis après on se laisse séduire, quoi.
Oui, mais après c'est séduire par l'intimité charnelle. Par la psychologiquement aussi, hein, mais on n'est pas forcément amoureux, mais on a envie d'avoir de la tendresse.
Vous êtes une femme libre, hein, en tout cas.
J'essaye, mais on est libre quand on n'est pas amoureux, je crois.
Oui, bien sûr, mais ça vous arrivera peut-être de tomber amoureuse, hein, de toute façon.
Oui, oui, le sentiment, je l'ai déjà connu, hein, donc ça c'est un choix de vie parce que c'est plus facile maintenant. Ça me permet aussi d'être très bien entourée, du coup. Mais voilà, il n'y a pas de règle, je crois que on a tous besoin de tendresse et c'est pas forcément moi je suis pas dans la recherche de performance. Je pense qu'effectivement ça fait plaisir de séduire, de prouver qu'on séduit et de passer un bon moment avec quelqu'un. Mais en ce qui me concerne, il n'y a pas une histoire de performance ou de tableau de chasse. Alors peut-être parce que je suis une femme, je ne sais pas.
Mais ça dépend, est-ce que vous avez compté un peu le nombre d'amants que vous avez déjà eu ou pas?
Non, je crois que j'ai passé l'âge.
Ou alors ça dépasse un tel chiffre qu'on ne peut plus compter. Je ne sais pas.
Joker.
Joker, oui.
Non, mais puis c'est pas une envie forcément. En fait, moi je m'applique à vivre l'instant présent avec la personne avec qui je suis. Je m'applique à valoriser cet instant, quoi qu'il advienne.
Et dans l'ensemble, Nathalie, moi ça m'intéresse toujours de poser ce genre de questions un peu qui pourraient paraître étonnantes. Vous êtes plutôt agréablement surprise ou plutôt déçue par la qualité d'amants des hommes? Bon.
50-50. Je pense, pour ma personnalité, qu'il faudrait peut-être un peu plus d'instinct et d'extrême tendresse. En fait, je trouve que c'est les effleurements, c'est ce qui suscite le plus de désir.
Oui.
Même si derrière, après, avec la montée du désir, on choisit d'avoir des rapports peut-être un peu plus musclés ou un peu plus puissants. Je crois que le baiser, c'est important. Mais quand on n'aime pas, on n'a pas forcément envie d'embrasser. Mm-hmm. Mais le baiser, c'est ce qui commence à susciter le désir. Aussi.
Et avant le baiser, quels sont vos critères de choix?
Physique, de prime abord, mais on ressent tout de suite...
Une tache sur la chemise, vous acceptez quand même, Nathalie?
Pardon?
Une tache sur la chemise, vous acceptez quand même?
Si elle n'est pas trop grosse?
Non, ça va.
Non,
elle est toute...
Non, mais ça, c'est un détail, je trouve que... Bon, après,
mais il y a le chien qui accepte pas, c'est ça le problème.
De toute façon, on l'enlève la chemise.
Il garde. Bien gardé, vous voyez.
Ouais,
après, il y a des règles. Il y a des règles. Voilà, quand je pars en rendez-vous, que j'ai pas encore rencontré la personne, je préviens toujours un ami avec qui je suis et où je suis. voilà, il y a des règles de base, je pense, qu'il faut garder en mémoire. Mais
bien sûr,
j'ai jamais eu une mauvaise surprise sur l'attitude des hommes envers moi.
D'accord. Donc visiblement, vous chassez, si je puis dire, sur Internet.
Voilà.
D'accord. Et alors, c'est quoi vos critères de choix sur Internet?
Donc mes critères de choix, moi, je les aime grands.
Oui.
Plutôt bûcheron canadien.
Oui, mais enfin, allongé, qu'il soit grand ou petit, ça change rien, Nathalie.
Ah si, parce que moi, avec mon tempérament, vaut mieux que je tombe sur quelqu'un qui n'ait pas trop peur et qui soit déjà impressionnant, parce que sinon, oui, je le mange tout cru.
D'accord.
J'ai un côté très naturel qui peut étonner des fois les hommes, donc...
D'accord, donc il vous faut des hommes testostéronés. Hein.
Oui, ouais, assez virils, oui. Et alors après, l'orthographe, quand on écrit, ça, c'est important d'avoir quand même une bonne orthographe, parce que ça rend la relation plus chouette, choisir ses mots. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Qu'il y ait une photo, qu'il n'y ait pas de photo, bon, au pire, je peux passer facilement à l'as, mais ça m'est arrivé de rencontrer un homme qui ressemble énormément à mon père. Là, il y avait un problème. Hein.
Mais oui, c'est normal, ça.
Ou à mon ex, pire. Voilà, c'est... Voilà. Il y a des choses, malheureusement, les pauvres messieurs, je suis désolée, je peux pas, là.
Mais vous avez raison, l'orthographe, c'est déjà une sélection en soi, parce que vous savez à qui vous avez affaire en niveau d'éducation, donc c'est déjà pas mal. Et l'orthographe SMS, ça vous intéresse ou pas?
Ah, moi, je mets les virgules, les majuscules et tout, même par SMS.
Ah oui. Bravo.
Ah ouais, non, mais moi, je...
Vous êtes trop petit, Michel Schumann.
Moi, ça me fait plaisir, mais je suis trop petit pour elle, mais ça me fait plaisir quand même.
Mais c'est pas plus contraignant que ça, hein. Il y a des applications logiques de techniques qui permettent d'aller très vite comme ça aussi. Hein. Mais c'est... Moi, je me suis découvert à travers mes rencontres, j'ai découvert la sensibilité des hommes, leurs craintes, etc. On parle énormément, en fait.
Mais voyez, Nathalie, votre témoignage est important parce que les hommes qui écoutent, ils apprennent beaucoup de choses à vous entendre. Ils apprennent comment mettre une meilleure fiche sur Internet.
Avoir une bonne note.
Exactement.
Donc, alors oui, l'âge, assumez votre âge, mettez des photos récentes, s'il vous plaît. Assumez votre embonpoint, parce qu'on en est tous là avec l'âge et les contraintes de la vie, quelquefois, on s'est laissé aller. Mais assumez tout ça, parce que le problème, c'est que quand on rentre en contact physique avec quelqu'un qui n'est pas conforme à ce qu'on a cru devoir rencontrer, y a déjà un premier abord de déception. Alors que si on l'avait su au départ... La déception ne serait pas là.
Oui, bien sûr, on s'attend à voir quelqu'un qui est mince, et puis tout d'un coup, on se retrouve avec un homme bedonnant. Ça casse un peu le fantasme, oui.
Tout à fait. Mmh. Après, j'ai des rencontres qui sont devenues des amis. Il y a de tout, en fait. Hein. Et des amis que je conseille pour leurs propres rencontres. Donc, c'est... Y a, comme je dis au début, il n'y a pas de règles. C'est au feeling.
Absolument. Mais je crois que c'est ça. Mettez une photo qui vous met à votre avantage, évidemment, mais pas une photo de quand vous aviez 20 ans et alors que vous en avez 50. Voilà, c'est tout.
Ni une photo dénudée, torse nu ou des choses comme ça. C'est un peu trop. Ça montre trop de choses.
Oui. Et puis c'est surtout trop explicite.
Ça provoque. Il faut laisser un peu de rêve, un petit peu de découverte, quoi.
Mmh. Et les beaux mecs, quand on leur dit t'as une photo quand même assez équivoque, c'est. Oui, non, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Je dis, je crois ce que je vois, en fait. Le problème, c'est qu'ici, on met des indices. Voilà, moi, ça m'intéresse pas, le sexe pour le sexe. Il faut de l'enrobage autour. J'ai 40 ans, il faut de l'enrobage autour.
En tout cas, merci beaucoup.
J'ai cru comprendre avec l'AS que, en fait... Si les cougars sont des cougars, c'est bien pour une bonne raison, c'est que la femme, elle est inhibée à cet âge-là, et elle ressemble plus à un jeune homme, du coup, au niveau de ses envies sexuelles. J'ai l'impression que l'homme, en vieillissant, il a plus besoin d'affection, de tendresse.
C'est vrai.
Ce qui est le cas chez les jeunes femmes, en fait.
C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage, en tout cas, Nathalie.
Ben, merci à vous de m'avoir reçu.
Je vous en prie.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaye.
Frédéric, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité, Michel.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez 38 ans.
C'est bien ça.
Et vous avez donc votre femme qui vous a quitté à la fin de l'année, et vous n'arrivez pas à rebondir, vous n'arrivez pas à avoir une aventure avec une autre femme, hein, c'est bien ça.
C'est surtout que je n'en voulais pas du tout, du tout, du tout, et c'est avéré qu'un soir, il y avait effectivement une femme qui me tournait autour, et tous mes amis me voyant plonger et toujours espérer et attendre le retour de ma femme, alors qu'elle m'avait bien précisé que j'avais été assez violent, la séparation, que jamais elle ne partirait et qu'il fallait que je passe à autre chose, et que tous les efforts que j'avais pu faire seraient pour une autre, mais pas pour elle. Enfin bref, donc ce soir-là, j'ai voulu écouter mes amis et puis aller au but. Donc la personne m'a emmené chez elle. Et puis quand elle a voulu m'emmener dans sa chambre et au moment de passer à l'acte, on a eu à peine le temps de commencer que dès que j'ai ouvert les yeux, je voyais ma femme. Et alors que pourtant j'étais célibataire, je me disais, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Je me suis mis à culpabiliser, à être très très mal. Et j'ai tout stoppé d'un coup. Et ça, on a commencé, mais pas
vous
terminé.
Vous n'avez pas pu conclure, oui.
Voilà. Et donc quelques temps après, j'étais pas bien du tout, et quelques mois après, j'ai de nouveau eu quelques contacts. Elle est revenue me voir à l'improviste, elle a passé 3 jours avec moi. Effectivement, pendant ces 3 jours, elle m'a posé la question fatidique, est-ce que pendant tout ce temps, t'as eu quelqu'un, sur le coup, et ce qui était vrai, j'avais vu personne sauf ce fameux soir où... Mais je lui ai pas dit, sans intention aucune de lui cacher, c'est sur le coup, c'est pas venu, ça m'est pas venu à l'esprit, mais j'étais vraiment parti pour lui expliquer. Et le week-end d'après, c'est moi qui suis parti pour aller la voir, et là, malheureusement, avant même que j'ai eu le temps de dire ou de lui dire, elle s'est mise à fouiller dans mon téléphone et vu le petit message que j'avais envoyé à cette fameuse personne en m'excusant de ne pas avoir été à la hauteur à cette époque, enfin. Et depuis, elle m'en voulait énormément, mais ça allait à peu près. Et en fait, et là, plus ça fait 15 jours, et plus ça va dans le temps, et plus elle me dit qu'elle va pas réussir à digérer, que ça devient très dur pour elle, que j'ai tout gâché, et après elle me dit que confiance, c'est un mot qui perd tout son sens quand la trahison et la peine sont commises. C'est
un peu mon... Ah, les femmes sont quand même compliquées, parce que c'est elle qui vous quitte, qui donc s'en va, vous laisse libre, mais quelque part, vous étiez encore visiblement en sa possession. Vous avez pas un peu l'impression d'être un homme castré, Frédéric?
Là, je sais plus trop. Je l'aime tellement et j'ai tellement pas envie que ça s'arrête. Je serais à peu près à faire n'importe quoi pour.
Oui, mais voyez bien que quelque part, vous êtes complètement à sa disposition. Elle vous quitte. Vous essayez d'avoir une relation avec une autre femme. Vous y arrivez pas. Tellement vous êtes à sa disposition. Elle revient, elle vous fait une scène, et c'est encore elle qui considère que elle a le pouvoir.
Quelque part, c'est de la manipulation, hein, Frédéric. Vous êtes manipulé là actuellement.
En même temps, après, sa décharge, c'est dans le passé, c'est surtout moi. Je l'ai jamais trompé, jamais. Mais c'est vrai que on s'est fait pas mal de mal, on s'est poussé à bout, et elle était en dépression à la fin. Elle allait vraiment pas bien. Et c'est vrai que je m'étais promis de plus jamais, faire quoi que ce soit, la mettre en colère, la rendre triste ou...
Oui, mais vous avez utilisé le premier mot en me répondant qui m'intéresse, hein. Vous m'avez dit à sa décharge. Pour l'instant, c'est vous qui déchargez plus. Hein.
Oui, mais dans l'immédiat, c'est pas vraiment le plus
non,
important.
Non, je sais bien, Frédéric, mais notre inconscient nous parle toujours beaucoup. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au fond, vous n'êtes plus un homme. Et c'est pas comme ça que vous, de toute façon, vous allez vous réconcilier.
Ah, et comment alors?
Mais je crois que Brigitte a raison. Il faut pas accepter les choses telles qu'elles sont. Vous vous faites manipuler. C'est elle qui tient les rênes et elle fait de vous ce qu'elle veut. Et c'est pas l'objectif. Vous l'aimez, c'est vrai, mais une bonne rupture vaudrait beaucoup mieux que de continuer de vous faire tenir par le bout du nez comme elle le fait, hein. C'est pas possible.
Mais là, quand elle est revenue, tout allait merveilleusement bien. C'est juste le fait d'avoir appris ça qui, d'un coup, l'a un peu gâché et qui devient dur pour elle.
Oui, mais vous savez bien que c'est pas vrai.
Frédéric, franchement, je vais vous dire les choses très clairement. Si, quand elle a découvert ça, vous lui aviez dit « Eh oui, bah, tu m'avais quitté et j'ai eu envie d'avoir des aventures avec d'autres femmes », vous auriez à nouveau excité sa libido. Et à mon avis, alors elle aurait peut-être fait un peu la tronche pendant quelques jours, histoire de bouder et de montrer que quelque part ça lui plaît pas.
Elle l'a fait de toute façon, hein.
Mais en tout cas, votre couple aurait pu rebondir, alors que là, vous avez joué le coupable. Vous voyez, vous êtes dans un jeu où c'est celui qui va être le plus coupable, et c'est quelque part, pour l'instant, elle qui tient le premier rôle. Hein. Elle a réussi à vous culpabiliser de A à Z. Vous savez, une femme a besoin d'admirer un homme.
Bah, là, j'ai l'impression qu'elle a surtout besoin d'avoir confiance en moi, et c'est ce qu'elle arrête pas de me dire, et j'ai beau lui répéter qu'elle peut, qu'elle a...
Non, mais là, Frédéric Michel Schumann vous le dit bien, c'est une manipulation, la confiance. Mais ça veut dire quoi, la confiance, quand on a quitté quelqu'un?
Oui.
Vous n'avez plus de devoir envers elle, puisqu'elle vous a quitté. Elle a rompu le contrat, et donc vous n'avez aucun devoir. Votre devoir maintenant, c'est de vous assumer vous, d'assumer votre vie et d'écrire un nouveau livre. Vous fermez le dernier livre, gentiment, parce que vous n'êtes pas obligé d'être méchant, vous n'êtes pas méchant, ça s'entend, mais vous fermez ce livre-là, ça restera une bonne copine, une histoire, et vous construisez votre histoire maintenant avec une nouvelle copine.
Enfin, c'est là le problème, c'est que le livre, j'ai tout sauf envie de le fermer, j'ai aucune...
Oui, mais elle vous donne pas le choix.
En tout cas, vous fermez ce chapitre.
Ce chapitre, oui, mais vous repartir sur de nouvelles bases et en...
Oui, mais vous ne pourrez partir sur de nouvelles bases qu'à partir du moment où vous fermez définitivement cette histoire entre le moment où elle a décidé de vous quitter et le moment où elle revient. Ça, c'est du passé. Et éventuellement, pourquoi pas reconstruire, repartir avec elle, mais il faut d'abord nettoyer.
Entendu.
Redressez-vous.
On va essayer.
Et puis, si la petite chose se redresse pas, Michel Schumann, il y a des solutions. Hein.
Non, mais là, c'est pas le souci. J'en ai pas la moindre envie. Je pense pas avoir de souci là-dessus, mais voilà.
Et je pense que vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous guider, vous aider dans vos réflexions et vos prises de décision. Parce que tout seul, je sais pas si vous y arriverez.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
On continue avec Nanou. Bonjour Nanou. Voilà une bonne manière de ne pas prendre des psychotropes. C'est faire des rencontres d'un soir. Hein. C'est ça Nanou, vous avez trouvé
oui,
la solution.
Ça, tout à fait.
Vous avez
bonjour
raison.
À vous Brigitte. Bonjour, et bonjour Nanou. À votre invité. Moi je voulais intervenir parce qu'effectivement moi je suis mariée depuis plus de 20 ans. Et il y a 2 ans je me suis prise d'une crise de la quarantaine on va dire.
Oui.
Et j'ai été sur des sites et j'ai rencontré des hommes. Voilà, j'ai rencontré des tas d'hommes. Sur 2 ans, je trouve que j'ai fait fort quand même.
Ah oui, combien suis... Alors allez-y, dites-nous.
Ouais, un peu plus d'une vingtaine. Hein.
Sur 2 ans, ouais, c'est pas mal, ça fait un par mois, oui.
Enfin, un par mois, c'est pas énorme.
C'est bon, à raison de, pour certains, une ou 2 fois de plus. Hein.
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il y en a 20 différents, mais ça veut pas dire qu'il y a eu que 20 coups en 2 ans, Michel Schumann.
Voilà.
N'est-ce pas? Et bien, visiblement, ça vous a rendu joyeuse, en tout cas.
Ben, ça m'a épanouie. Ils m'ont tous apporté quelque chose, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Ils sont tous tellement différents, puis en même temps, je sais pas trop ce que je cherchais moi en faisant ça. Donc maintenant, je pense avoir trouvé.
Alors, vous cherchiez quoi?
L'excitation, le casser la routine, découvrir un nouvel homme.
Du fun dans votre vie, quoi.
Du fun dans ma vie, et puis l'homme. L'homme. J'en ai rencontré sur ce panel, j'en ai rencontré qu'un seul qui m'est vraiment bluffé.
Mm-hmm.
Qui m'est bluffé humainement, sexuellement, et physiquement, quoi.
Mais alors, donc, vous dites, j'avais besoin de rencontrer l'homme, mais vous en aviez un dans votre vie?
Ouais, mais je crois qu'il s'est éteint avec les années.
Mm-hmm. Il vous séduisait plus, quoi.
Non, il est toujours là, hein. Il est toujours avec moi, je suis toujours...
Oui, mais je veux dire, il vous faisait plus la cour.
Non, il me fait plus la cour non plus, mais il me faisait plus rêver, et puis on est tombé dans le quotidien, les enfants, enfin voilà, tout ce qui peut y avoir autour de ça. Et à côté de ça, ces hommes-là, bon, c'était, j'ai parcouru des kilomètres, hein, parce que je partais, je prenais le TGV, je prenais pour aller les voir. Donc il y avait aussi l'excitation de tout ce qui se mettait en place autour de cette rencontre.
Mm-hmm.
Donc, on a besoin de films, hein, on a besoin de s'écrire des films, de s'écrire des romans.
Tout à fait. L'orthographe, oui, je ne vais pas dire de la poésie parce qu'il n'y en a pas sur ces sites-là, mais d'être le plus sincère possible. Et puis, moi, je ne prends pas de photos. Je ne mets pas de photos et je ne veux pas de photos.
D'accord, pour avoir vraiment la surprise. Hein.
Oui, avoir la surprise. Ouais. Parce que je suis physiquement, je suis petite et grosse, hein, faut le dire. Et je le disais. Par contre, j'étais très claire. Je disais que j'étais petite, je mesurais un peu de temps et que j'étais forte. Et à partir de là, ils acceptaient ou ils n'acceptaient pas. J'en ai qui m'ont dit non, ça, ton profil ne nous intéresse pas, physiquement tu ne nous intéresses pas. Mais c'est pas grave, j'accepte aussi.
Là, comme ça, vous n'avez pas de mauvaise surprise.
Voilà. Par contre, à partir du moment où il le savait, il y a eu une seule fois où je me suis retrouvée devant un homme. Ça, c'est des expériences qui vous marquent, mais en même temps, c'est un tellement bon week-end que j'ai passé outre, mais qui a été un peu choqué par mes formes.
Bien que vous l'ayez prévenu, quoi.
Voilà, tout à fait.
Il a dit oui, ronde, d'accord, mais là, quand même...
Voilà.
Oui, oui. Bah, c'est un peu. Oui, c'est sûr que ça a dû être un petit peu blessant quand même, évidemment.
Au démarrage, oui, la première soirée, puis après, bon, on a passé un week-end super, quoi.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc c'est vraiment pour le coup d'un soir. Bah, c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien par où ça passe, on en fait.
Donc il n'y a pas que le sexe dans la vie, il y a aussi le cul quand même. Hein.
Oui.
Mais culturel, hein, sans oui. Faute d'orthographe, on est bien d'accord.
Hein. Tout à fait, c'est pour ça que ça vaut tous les antidépresseurs qu'il peut y avoir. Je ne sais pas si c'est mieux.
Si. C'est moins toxique, il y a moins d'effets secondaires.
À condition de se protéger. À condition de
se protéger, bien sûr. Voilà.
Voilà, et la relation, je trouve qu'elle apporte tellement la relation, le côté humain aussi, qui est très important, parce que vous rencontrez des hommes d'horizons différents, et en fin de compte, vous adaptez. Vous adapter à l'écoute, à la façon dont vous allez vous présenter, à parler. Et je trouve que ça, c'est tellement enrichissant.
Bien sûr, mais alors si vous voulez, là, on est dans une émission où on parle de sexe. Mais oui. Finalement, de ce que vous me dites, si vous mettez le sexe de côté, on n'est pas obligé, hein, vaut mieux en avoir un petit peu. Oui. Vous pouvez rencontrer des gens sans qu'il y ait d'aspect sexuel et sans que ce soit pour vous quelque part culpabilisant ou embêtant pour votre mari s'il le savait. On peut rencontrer des gens pour parler de poésie, de culture, de littérature, de peinture, de paysage, se promener, bien manger, bien boire.
La preuve, c'est que ce week-end que vous avez passé avec cet homme qui vous trouvait un peu trop ronde, vous avez passé un super week-end. Donc voyez bien que finalement, le sexe, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ce qui est intéressant, c'est la relation, en fait. C'est ce qu'on va découvrir de l'autre, c'est... Non ?
Oui, mais...
Mais il faut cette cerise.
Ouais, oui. Il faut cette cerise parce que justement c'est comme à la fin d'un repas, moi je suis bec à sucre, j'ai besoin de finir par une touche sucrée, c'est comme un bon vin. C'est-à-dire si vous avez un vin qui est moyen, à la fin du repas j'ai besoin de cette touche.
À mon avis c'est aussi parce que ça vous aide vous à vous construire vraiment votre identité féminine.
Ah oui, j'en suis sûre, oui.
Oui.
Oui, parce que je me suis mariée, je ne vais pas dire jeune, j'avais 24 ans.
Si, c'est jeune, 24 ans.
Oui, ouais. Et j'ai eu des bons, j'ai eu mes enfants après, on a la vie, voilà. J'ai eu deux, trois personnes avant mon mariage, mais c'était pas... Là, ce qu'il y a, c'est la fantaisie, quoi. C'est la fantaisie, l'inconnu, tout ce qui est excitant, et puis la cerise sur le gâteau, le sexe.
Mais en plus... ceux qui vous écoutent et qui sont peut-être un petit peu choqués en se disant, mais quand même, etc. Mais on voit bien que votre couple, il va peut-être même mieux et il n'est pas question pour l'instant, de toute façon, d'y mettre fin. C'est vraiment votre jardin secret et je ne vois pas de quel droit on se permettrait de juger, d'ailleurs.
Oui, tu as la cerise sur le gâteau, mais c'est une cerise sans noyau.
c'est pas une pêche, hein, c'est donc pas un péché. Merci Nanou, en tout cas.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie. RMC. Là est l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Dans quelques instants, nous écouterons Sébastien. Il n'arrivait pas à avoir d'enfant, mais d'abord, écoutons les explications de Christian Jamin sur les hormones de l'attachement.
Pour moi, l'organe sexuel majeur, c'est le cerveau. C'est l'attachement au sens psychologique du terme. Et je suis toujours un peu en retrait par rapport aux théories tout organiques, c'est-à-dire si je vous appuie là, ça vous fait quoi? Si je vous caresse le mamelon, est-ce que ça fait monter la cytocine qui va vous rendre amoureuse, etc. Bon, c'est clair que les hormones jouent un rôle, dans notre régulation, mais que nous sommes, Dieu merci, infiniment plus complexes que ça. Et oui, bien sûr, l'ocytocine est plus élevée chez les gens qui sont attachés l'un à l'autre. Quand on injecte de l'ocytocine, on favorise l'attachement. Mais probablement, c'est mineur par rapport à ce qui se passe dans la vie.
D'accord, donc c'est pas le filtre d'amour qu'on pourrait espérer.
Je vais peut-être en décevoir beaucoup, mais je crois assez peu au filtre d'amour. Je crois beaucoup à des périodes de la vie où on a envie de rencontrer quelqu'un, où on croise quelqu'un qui a une image qui correspond à ses fantasmes, etc. et on aura beaucoup de mal à inventer la pulvérisation nasale qui rend amoureux ou le donc non je ne crois pas réellement que des phénomènes aussi complexes que l'amour, l'attachement ou même le désir soit uniquement ou majoritairement expliqué par des hormones.
C'est ça, c'est-à-dire que ça reste des émotions, des sentiments, et donc forcément pas tellement mesurables sur le plan médical, quoi.
Oui, c'est-à-dire que nous avons des vieux restes archaïques de désir hormonal, de pulsions, etc. Mais fondamentalement, chez chacun d'entre nous, tout ça est tellement modulé par la vie et la société qu'il y a beaucoup, beaucoup de rêves et de mystères qui doivent rester.
En même temps, il semblerait qu'au moment de la naissance, hein, quand l'enfant, enfin que le nourrisson se porte sur le corps de sa mère, il y a un phénomène comme ça qui...
Oui, alors, mais bon, il est sûr que l'ocytocine, on connaît ça depuis 40 ans ou davantage, l'ocytocine est une hormone qui est sécrétée quand on titille le mamelon, quand on aspire au niveau du mamelon et qui permet l'excrétion du lait. Bon. Donc à partir de là, on extrapole, on dit oui, mais l'enfant est attaché à sa mère par la succion du mamelon, etc. Donc, par un syllogisme, on dit bah c'est à cause de l'ocytocine. Alors c'est vrai que dans certaines expériences, on a trouvé que quand il y avait un attachement fort, on avait plus d'ocytocine. Il est vrai aussi qu'il a été démontré que lorsqu'on se caresse beaucoup, on augmente l'ocytocine et qu'on augmente l'attachement ou l'amour ou l'attirance. Et puis il a été montré aussi que quand on injecte cette fois de l'ocytocine, alors là on n'est plus dans l'attachement, on est dans l'orgasme, on est dans la jouissance. C'est-à-dire que en fait, il semble que l'ocytocine à faible dose soit associée à l'attachement et à très forte dose à l'orgasme.
Tendresse et plaisir font augmenter le lien d'attachement, finalement, on pourrait conclure comme ça.
Alors, oui, mais probablement dans l'autre sens aussi, et c'est ça qui fait toute notre richesse. C'est-à-dire, quand vous êtes attaché, vous avez plus d'ocytocine, mais est-ce que vous avez plus d'ocytocine qui vous rend plus attaché, ça reste à démontrer.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Brigitte. Bonjour Christian Jamin. Donc ça fait 5 ans que je suis avec ma compagne. Et depuis environ un an, ou un petit peu plus d'un an, on a décidé d'avoir un enfant. Mais et au bout de plusieurs mois, donc on s'est rendu compte que, parce qu'en fait, il faut dire qu'à la base, ma compagne a un problème de thyroïde, a fait de l'hypothyroïdie. Et donc en faisant des examens, on s'est rendu compte qu'elle a un syndrome polykystique sur les ovaires, ce qui empêche, si vous voulez, l'ovulation en fait. Donc elle a commencé à faire des examens pour faire donc des radios et tout ça. Donc c'est là qu'on a vu le syndrome polykystique. Et il y a au début du mois, il y a quelques jours, elle a fait une hystérosalpingographie.
D'accord, mais on va essayer de rester quand même un petit peu grand public. Sébastien, c'est quoi votre question?
Mais disons qu'en fait, l'examen qu'elle a fait début du mois, ça l'a beaucoup traumatisée, parce que c'est un examen un peu spécial. Ça l'a beaucoup traumatisée, plus le taux de la thyroïde qui a été déréglé il y a quelques semaines. Si vous voulez, au niveau de la libido, elle est carrément à zéro. Et pour avoir un rapport, c'est un peu compliqué.
Mais pour avoir un bébé aussi, hein.
Voilà aussi. Et donc, mais si vous voulez, tout ça, ça l'a beaucoup déréglé. Et elle est à limite, ça l'a un peu écœuré, quoi. Et je sais pas comment faire pour aider notre couple à passer ça, quoi. Parce que c'est un peu compliqué, quoi.
Alors, je voudrais vous dire que sur le plan médical, tout ce que vous avez dit n'a rien d'inquiétant. Tout ça n'est pas grave. Mm-hmm. Et que tout ça n'a rien à voir avec la libido. C'est-à-dire que c'est assez facile à prendre en charge. Plus ou moins, bien sûr, mais que c'est ailleurs qu'il faut chercher le trouble du désir sexuel. Ça n'est pas lié à tout ce dont vous avez parlé.
D'accord.
Voilà. Donc après, maintenant, il faut effectivement chercher pourquoi votre vie sexuelle est moins intense. Mais je voudrais juste rappeler à tous les auditeurs et toutes les auditrices que pour faire un bébé, la meilleure méthode, c'est de faire l'amour tous les 3 jours.
D'accord. Oui, oui, non, mais bon. C'est, voilà, comme je dis, là.
Mais c'est, voilà, c'est toujours pareil, Sébastien. Il y a peut-être, deux, trois petites choses qui fonctionnent pas complètement comme il faut. Et du coup, on pense que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à être enceinte, alors qu'au fond, il y a plein de femmes, je suis sûre, il y a un siècle, qui avaient les mêmes problèmes que votre compagne et qui arrivaient quand même à être enceinte, quoi. Donc,
oui,
faut pas trop focaliser non plus sur, visiblement, oui. Puisque Christian Jamin, hein, je me permets de parler sous votre, regard, Christian, a priori, donc, essayez de retrouver une bonne libido et il y a plus de chances que vous serez papa qu'en essayant de continuer à faire des examens et encore des examens.
C'est tout
oui,
à fait
c'est
ça.
Sûr, mais il s'est avéré aussi que moi j'ai un problème aussi de stérilité de mon côté. J'ai 20% de spermatozoïdes.
Non, mais si vous mobiles. Avez un problème de stérilité, c'est autre chose là.
Oui, là. Oui. Il y a deux choses qui sont indépendantes. Il y a une prise en charge médicale et de vous et d'elle,
oui.
Indispensable, et des deux en même temps même. Et puis il y a la vie sexuelle et le désir et la sexualité qui n'ont rien à voir ni avec votre problème à vous, ni avec le sien.
Merci en tout cas Sébastien de votre appel.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Alors Élise, vous avez 35 ans, vous allez nous raconter votre drôle d'histoire parce que vous vous êtes mis en couple avec quelqu'un, hein, avec un homme donc, pendant plusieurs mois. Et puis c'est votre entourage hein, qui avait tendance à vous dire c'est peut-être pas l'homme de ta vie, notamment votre meilleure amie. Hein.
Tout à fait. Donc, mais en fait je le connaissais depuis un petit moment déjà et on s'entendait mais sans plus.
Mm-hmm.
Et puis bah, finalement il vient vers moi un jour et il me dit que bah, je lui plais et puis c'est réciproque. Donc ça se passe très très bien. Et puis donc bah, je le dis, hein, mm-hmm. Je le dis aux gens qui m'entourent, dont ma meilleure amie qui elle aussi le connaissait et me dit « Ah non, mais ça va pas, mais tu peux pas te mettre avec un tel imbécile. » Mais même d'avant, elle ne l'appréciait pas plus, quoi. Elle m'avait toujours dit que c'était quelqu'un qu'elle n'appréciait pas et qui lui semblait pas quelqu'un de bien honnête. La relation se passe, tout se passe bien, ça avance, mais j'ai toujours des mots donc de ma meilleure amie. Dans son entourage aussi, c'est compliqué parce que nous étions de religions différentes, en fait. Et puis, bref, on a pas mal de pression tous les deux et ma meilleure amie insistant, à un moment, j'avoue que je lâche l'affaire en disant c'est pas possible, ça va pas être possible. Et pourtant, je l'aimais et je l'aime toujours d'ailleurs. Et donc j'arrête notre relation et en fait, donc ma meilleure amie me dit que c'est très bien, etc. Et on restait quand même, on se téléphonait de temps en temps, on se parlait. Et puis, j'apprends que un jour il m'appelle en fait en me disant que il a appris que j'étais que je lui avais raconté des mensonges. Et en fait, je ne pouvais pas me défendre et je savais pas quoi lui dire parce que je tombais des nues. Et en fin de compte, j'ai appris que c'était ma fameuse meilleure amie qui lui avait raconté tout
c'est
et
bon
n'importe
bar,
quoi.
Oui.
Voilà. C'est-à-dire qu'on ne croit que ce qu'on veut croire. Bah lui, il a préféré la croire et en fait, ils se sont mis ensemble. Et puis voilà, donc je me suis retrouvée comme une idiote, parce que en fait, il a cru tout ce qu'elle a pu lui raconter sur moi.
Oui, mais en même temps, vous l'aviez quitté, donc il avait, une petite dent contre vous, donc c'est assez logique qu'il ait cru votre meilleur ami, vous voyez. Mais ce qui est terrible dans ce que vous racontez, c'est comment les mauvaises fées, ça existe, parce que finalement. Même si aujourd'hui vous avez compris, c'était pas votre meilleur ami, hein, on est d'accord. Mais à l'époque, c'était votre meilleur ami, donc elle vous dit, écoute, cet homme, il est pas bien pour toi. À force de l'entendre, on finit par le croire, quoi. C'est terrible. Hein,
c'est des défauts qui grossissaient et même des détails. Et comme lui aussi de son côté, il avait de la pression, on s'éloignait. Mais alors que quand on était ensemble, ça se passait extrêmement bien. Enfin, voilà, on était dans une petite bulle, la pression extérieure a beaucoup joué. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est que cette fameuse fausse meilleure amie
part derrière, quand elle s'est mise avec, est venue me dire « Ah bah, il t'a pas dit ça ». Et après, elle continuait à dire, entre guillemets, du mal de lui. Mais devant lui, bah, tout était merveilleux, quoi. Enfin, il est merveilleux, etc. Donc,
Bah, ce qui est dommage, c'est que lui, à un moment ou un autre, il déchantera aussi. Parce qu'une femme qui est capable de se conduire comme ça avec, avec vous, bah, je pense qu'elle est pas, elle est pas très fiable non plus, de toute façon, avec, avec cet homme, hein. Elle, c'est toute la, vous voyez, c'est toute la complexité humaine. Cette femme, sans doute, vous envie pour, je ne sais pas pourquoi.
C'est ce que des amis m'ont dit. Ça me semble plutôt une jalousie. Et j'étais là, mais alors, en fait, ce que j'ai pas compris, je vous l'avoue, c'est que pendant beaucoup de temps, ça a été, enfin beaucoup d'années même, ça a été beaucoup de, enfin voilà, enfin me disait que c'était pas quelqu'un de bien. Sans le connaître, elle lui trouvait déjà des défauts. Et du jour au lendemain, c'est devenu l'homme le plus merveilleux du monde.
Oui, bien sûr, mais je crois que ce qu'il faut surtout comprendre, Élise, parce que finalement, enfin, il y a deux choses, hein, dans votre histoire. Il y a l'histoire avec votre meilleur ami, puis il y a l'histoire avec cet homme. L'histoire avec cet homme, bon, je pense que malgré tout, il devait y avoir quelques doutes en vous pour que ça ait pu prendre autant d'importance ces mots qu'elle ne cessait de vous répéter. Si vous aviez été aussi sûr de cet amour, je pense que vous seriez passé outre.
Ouais,
il me semble, hein, quand même. Bref, il devait y avoir des petites différences qui, quelque part, étaient un petit peu trop présentes pour que vous puissiez les dépasser. Mais en revanche, ce qu'il faut comprendre pour ce qui s'est passé avec votre meilleur ami, je crois que ça c'est vraiment important, et là je peux peut-être un peu vous aider, c'est que certainement ça a été une vraie très bonne amie pendant un laps de temps, et à un moment donné, et ça vous seul savez pourquoi, vous avez dû certainement soit un petit peu prendre un autre chemin qu'elle, soit réussir mieux qu'elle dans un certain domaine, et à ce moment-là, ça a réveillé chez elle ce que j'appelle l'envie, hein, et c'est pas tout à fait la jalousie. L'envie, c'est vraiment un sentiment destructeur, et donc il fallait qu'elle vous détruise.
Mais comme quoi, vous savez quoi, Brigitte, c'est assez rigolo parce que bon, c'est la première fois qu'on se parle, hein, et vous analysez très bien parce que j'ai beaucoup de gens qui me connaissent et qui m'ont dit, écoute, on était très très proches, et en fin de compte, à un moment, elle n'avait plus de,
d'emprise.
Elle se trouvait plus de copains, elle se trouvait plus de copains ni rien. Moi, j'ai réussi à me trouver, une ou deux histoires, dont celle-ci qui est tombée. Et en fin de compte, moi, je réussissais mon histoire et elle pas, je pense quelque part. Après, est-ce que c'est ça qui a joué? Je ne sais pas, mais oui, elle avait quand même une certaine emprise sur moi parce que effectivement, c'était ma meilleure amie et je la croyais. Quand elle me parlait,
Elle ne peut fonctionner. Moi, j'en connais beaucoup des gens comme ça et ils sont plus à plaindre, même s'ils font du mal, hein, Élise. Mais elle est plus à plaindre que vous parce qu'au fond, c'est des gens qui ont besoin d'être dans l'emprise avec leurs amis, avec leurs amours, avec leurs enfants. Et s'ils n'ont plus cette emprise sur l'autre, à ce moment-là, ils détruisent l'autre ou ils partent, mais les trois quarts du temps, ils essayent de détruire. Parce que c'est des gens qui, au fond, ne savent pas vivre autrement que dans le pouvoir. Mais parce qu'eux-mêmes ne sont pas suffisamment solides, il y a évidemment une très grande fragilité chez elles.
Oui, donc bon, au jour d'aujourd'hui, bah, moi, je m'en sors parce que ça a été quand même un gros coup dur. Bah, ce qui reste, par contre, bah, c'est que j'ai toujours des sentiments pour ce jeune homme. Et que bah voilà, maintenant il faut que moi je tire un trait sur toute cette histoire et que voilà, je passe vraiment à autre chose, quoi. C'est compliqué.
Oui, voilà. Mais sauf, je sais pas, hein, sauf si vous avez des personnes en commun, c'est-à-dire si vous avez des gens qui le connaissent et qui vous connaissent bien et qui peuvent à ce moment-là rétablir un tout petit peu la vérité, parce que quelque part il va se mordre les dents, hein, avec cette femme.
Je pense, après,
Mais c'est pas vous qui pouvez aller le prévenir.
Ah non,
parce
non,
que...
moi je n'ai aucun impact, je pense, au jour d'aujourd'hui, vu ce qui lui est venu aux oreilles, en tout cas, parce que j'ai eu les échos, et j'ai même eu les échos de ce qu'elle pouvait raconter aux gens de notre entourage sur moi, et ça fait extrêmement mal. Heureusement, effectivement, que j'ai des gens qui m'ont dit, écoute, nous, quand on a entendu ça, on a dit, mais c'est pas vrai, arrête de raconter des bêtises, c'est totalement faux, on la connaît un minimum. Et heureusement, après, pour lui, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, de toute façon, là, il est comment dire, sous le charme.
Oui, il est sous l'emprise.
Voilà. Oui. Et pour l'instant, quoi qu'on lui raconte, même si on lui...
Bon, il faut attendre. Restez patiente, on ne sait jamais. Peut-être que ça se terminera plus vite que vous ne l'imaginez. En tout cas, encore une fois, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, parce que Élise, votre témoignage, il est criant de vérité. Quand quelqu'un dénigre énormément son ami, son parent, son enfant, son mari, son épouse, méfiance, c'est forcément quelqu'un de négatif. Voilà, je crois que c'est...
Est-ce que vous me laissez juste deux secondes?
Je vous en prie, Élise.
C'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que au début de notre amitié, c'était vraiment super. Et petit à petit, de ci, de là, il y a eu des dénigrements qui sont apparus. Moi, je me disais, c'est peut-être pour mon bien qu'elle peut me dire ça et des choses comme ça. Et en fin de compte, il y a une sorte, effectivement, comme vous le dites, d'emprise qui s'est créée jusqu'à ce que je me dise, ce qu'elle me dit, c'est vrai, et jusqu'à ce que je croie, entre guillemets, tout ce qu'elle pouvait raconter, quoi. Mmh.
Mais là, il faut quand même que vous avanciez un tout petit peu sur vous-même, Élise. Pourquoi, au fond, la parole d'une amie femme est plus importante que les sentiments qu'on porte pour un homme? Il y a quelque chose à chercher, là, quand même.
Oui, tout à fait. D'accord. Je suis d'accord avec vous.
Je vous embrasse, Élise, mon
courage. Merci beaucoup, en tout cas.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir.
RMC. Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Jacques, qui apparemment avait du mal à oublier son ex, et nous étions avec Bruno Poncenard ce jour-là.
Bonjour Brigitte, bonjour Bruno.
Bonjour Jacques.
Merci de me donner la parole dans votre émission.
Je vous en prie.
Ça fait des mois que je voulais vous appeler, mais bon, des fois le téléphone pèse lourd. Et dans mon cas, c'est un peu un melting pot de tout ce que vous avez dit depuis le début de l'émission, dans la mesure où je suis divorcé. J'ai une amie depuis 6 ans, bientôt 7 ans cette année au mois de décembre. Et la première année qu'on s'est connus, malheureusement, je n'avais pas complètement coupé avec mon ancienne amie. Mm-hmm. Ce qui fait que j'ai eu deux relations cette année-là, en 2008, avec cette ancienne amie. Et ma nouvelle amie, en 2009, l'a découvert. Elle est très futée et elle a réussi à découvrir, comme on dit, le poteau rose. Alors, il y avait deux solutions à ce moment-là. C'était qu'elle me jette, puis le problème était réglé. Et elle ne l'a pas fait, et on a continué la relation. Le problème, c'est que depuis cette période-là, ça devient un problème complètement récurrent, où elle me dit que j'ai pas été fidèle, bien sûr, que je l'ai humiliée. Que demain matin, je suis capable de recommencer, que je suis un homme à femme, que je suis ceci, que je suis cela. Et c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. À tel point que j'en suis arrivé à faire une dépression et à déclencher le 24 avril dernier une fibromyalgie. Ah. Alors c'est pas peu dire, ça veut dire quand même que j'ai encaissé les coups. Mais j'ai encaissé les coups. Pourquoi ? Parce que je l'aime. Je crois que c'est la seule femme de ma vie que j'ai aimée et que j'aime autant. Et je n'arrive pas à partir. Je n'arrive pas à rompre. Donc,
je m'excuse, Jacques. Pourquoi vous voulez rompre ?
Mais parce qu'il n'en peut plus.
Ah ben parce que attendez, j'ai plus de vie sociale. Elle m'a fait couper tous mes amis parce que toute personne que je peux côtoyer, homme ou femme, peut être quelqu'un de dangereux. Mmh. À tel point que là, comme je viens de déclarer une fibromyalgie, je devais aller voir pour des cours de yoga. Le jour où j'y suis allé, elle m'a fait une scène pas possible en disant « c'est un endroit où tu vas rencontrer des femmes ».
Écoutez, Jacques, remerciez le bon Dieu ou je ne sais qui d'avoir un problème de santé grave, parce que ça va être le déclic. Dans ce que vous racontez, je pense que vous avez vraiment affaire à une femme un peu manipulatrice, qui vous coupe de tout le monde extérieur et qui, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous serez toujours le mauvais objet, comme diraient les psys.
C'est-à-dire qu'elle met tout sur le fait que je l'ai...
Oui,
je
bien
l'ai
sûr, c'est un argument. Excusez-moi. Non, mais Jacques, excusez-moi, mais on rencontre quelqu'un, on ne sait pas trop où on va. On a encore un peu des attaches avec une ex, c'est pas quelque chose d'impardonnable. Si 7 ans après, elle n'a pas réussi à vous pardonner, je crois que c'est parce que quelque part, elle a envie que vous de garder le pouvoir et de vous considérer comme un mauvais objet.
Ouais.
En tout cas, elle est dans la jalousie maladive parce que, à la limite, on coupe la tête à Jacques, Jacques a été infidèle, on le quitte. Mais on ne reste pas 7 ans avec pour lui faire la misère, Jacques.
Oui, alors je peux vous dire une chose, c'est que moi, depuis cette affaire, je n'ai jamais, jamais été voir ailleurs. Jamais.
Oui.
Jamais.
Et quand bien même.
Et je lui dis, je pense quand même que ça, c'est quand même quelque chose qui pèse lourd dans notre relation, qui est une preuve que je t'aime, que j'ai envie de toi, que je veux rester avec toi et tout. Mais bon, ça suffit pas.
Mais non, mais rien ne suffira. Hein. Vous pouvez vous couper ce que je pense, ça ne suffira pas. Hein.
Alors, la dernière chose, vous parliez d'ex. Depuis qu'elle est divorcée en 2011, elle est toujours dans la maison avec son ex. Elle a un fils qui a 36 ans, qui est célibataire. Son fils arrive tous les vendredis soirs avec son sac de linge sale, on va dire. Il passe le week-end là. Il repart le dimanche soir ou le lundi matin. Et depuis qu'on se connaît, on n'a jamais eu l'occasion de passer un week-end ensemble.
Eh oui, ben voyez bien, Jacques, le fils, c'est l'homme parfait. Et vous, vous êtes le méchant homme.
Après, au niveau psychologique, faut comprendre ce que c'est que la jalousie maladive. Et j'ai bien employé le terme de maladif. Mmh. La jalousie maladive, c'est une intention qu'on prête à son conjoint qui, en fait, pourrait nous concerner. C'est-à-dire que si moi, j'ai la suspicion qu'en permanence, mon conjoint va me tromper, ma conjointe va me tromper, c'est parce qu'inconsciemment, moi, je me sens peut-être des fois en état de faiblesse ou dans le désir de le tromper.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
C'est Mike maintenant qui est avec nous. Bonjour Mike.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité.
Bonjour Mike.
Bonjour. Voilà, donc moi je vous appelle.
Oui, vous avez 34 ans et vous, avec votre femme, oui. Vous voulez vous lancer dans la pornographie.
Tout à fait. En fait, c'est donc, oui, c'est un bien grand mot. En fait, si vous voulez, on est libertin depuis maintenant 5 ans. Mm-hmm. De par le libertinage, on a eu l'occasion de faire de la figuration dans un film pornographique. Et chose qui nous a plu, et donc on a fait des propositions comme quoi on voulait participer à un tournage, et donc on nous a validé ça et on nous a proposé un tournage pour la fin du mois. Ouais. On va y aller, on va essayer. Et ce que j'ai peur en fait, donc c'est pas du tout de voir ma femme, bien au contraire, hein, parce que je suis pas mal candoliste, et donc ça se passera bien. Sauf que j'ai un peu peur, en fait, c'est que mes parents, mes sœurs, mes frères et la famille nous voient et nous jugent, et on a peur du jugement. Et aujourd'hui, on ne sait pas si on doit le dire ou si on ne doit pas le dire.
Il y a deux choses. Hein. De toute façon, ça, vous n'avez pas à le dire. C'est votre vie privée. Là, on est même si vous êtes payé et que ça devient un peu professionnel, ça reste quand même votre vie privée. Vous êtes pas obligé de raconter à tout le monde que vous allez tourner dans un film porno.
Vous n'allez pas envoyer un DVD à votre famille.
Exactement. Maintenant, si vraiment vous avez peur d'être reconnu, moi à ce moment-là, je vous conseille de pas le faire parce que
C'est pas d'être reconnu, je m'en fous. Même ma femme s'en fout. C'est pas ça. C'est plus le regard de la famille. Si on leur dit pas.
Si vous leur dites pas et qu'ils tombent dessus, c'est qu'ils regardent.
On est bien d'accord. Comment ils vont le découvrir? Vos parents sont abonnés à des revues pornographiques?
Forcément, on regarde.
Ça va être diffusé où? À vous de voir également quel est le lieu de distribution.
On en sait rien. Vous savez, moi, quand j'ai tourné mes films, j'étais pas sûre. Je n'imaginais même pas que ça passerait un jour à la télévision.
Ah hein. Bon
franchement, en 76-80, ouais, on ne pouvait pas imaginer que ça passerait à la télévision. Donc, vous voyez, on ne sait pas quand on tourne quelque chose. Enfin, les images, aujourd'hui, ça reste totalement incontrôlable.
C'est vrai que ça diffuse
soyons clairs. Donc,
mais effectivement, si vous avez cette crainte-là, comme le dit Brigitte, mais ne le faites pas.
Ben en fait, c'est le jugement, parce qu'on a trois enfants, on est mariés, alors on a peur nous on a envie de le faire, on aime ça, on a envie de faire un essai, peut-être qu'on va faire un tournage.
À ce moment-là, faites-le, que votre femme mette une perruque, vous mettez une fausse moustache, enfin, déguisez-vous un petit peu, je plaisante pas.
Tout dépend du scénario également qui vous est proposé. Vous pouvez vous grimer un peu, porter un masque, je sais rien. Il y a des fantasmes par rapport à cela également. Mm-hmm. Porter un loup.
Oui, il y a moyen aussi de rester complètement pas trop reconnaissable. Vous voyez, c'est peut-être une solution.
D'accord. D'après vous, je ne devrais pas l'annoncer à mes parents, en fait.
Ah bah ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, oui. Ça, franchement, c'est pas le genre d'annonce qu'on fait à ses parents, Mike.
Parce que sinon, vous faites carrément la une du journal local, et ça sera très bien également. Votre notoriété, là, va être affichée. Non, mais je plaisante, mais bien évidemment, pourquoi vous voulez le raconter à vos parents?
C'est plus par respect.
Vos parents ne vous racontent pas leur vie sexuelle également?
Non, mais franchement, essayez de réfléchir en quoi ça serait par respect pour vos parents que vous iriez leur dire que vous avez tourné dans un film porno.
Oui, non.
Non, mais, moi, bien sûr que j'ai raison, ça, je suis d'accord, mais essayez d'aller plus loin dans votre.
C'est par rapport aux enfants surtout. Par rapport aux enfants, que normalement je cache rien à mon père. Surtout à mon père, j'ai une grande complicité avec mon père.
Donc votre père sait que vous êtes libertin?
Non.
Vous voyez bien que vous cachez des choses à votre père.
Donc c'est quand vous dites par rapport aux enfants, par rapport à vos enfants ou par rapport à vos parents? Parce qu'il y a une confusion complète.
Non, par rapport à mes enfants. On a trois enfants à bas âge.
Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que quand ils seront grands, vous serez content qu'ils tournent dans un film porno, vos enfants?
Je serais content qu'ils s'amusent. Si ça leur plaît, je serais content qu'ils fassent ce qui leur plaît. Donc, si c'est ça qui leur plaît, oui, bien sûr, je m'en fous. Maintenant, j'ai trois garçons, j'ai pas de fille. Donc peut-être que je réagirais pas pareil pour une fille.
Ça veut rien dire. Vous avez votre garçon aîné qui obtient un outdoor à Cannes dans quelques années. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes content? Vous sabrez le champagne?
Non, je veux pas sabrer le champagne. Il fait ce qu'il veut, quoi.
On vous taquine, bien évidemment. Chacun fait ce qu'il veut.
Mike, vous voyez, et je crois que c'est très important ce que vous êtes en train de dire, parce que finalement, on parle de pornographie, mais on parle de sexualité et on parle à tout le monde, là. Ça veut dire que, au fond, notre sexualité, on a toujours l'impression que ça regarde nos parents et nos enfants. Alors que normalement, si on avait vraiment compris ce que c'est que la sexualité et si on était vraiment libre, notre sexualité ne regarde que nous et éventuellement, je dis bien éventuellement, notre partenaire. Quand on est entre intimes, on en rigole, il n'y a aucun problème. Mais quand on veut faire du mal et on sait à quel point c'est toujours la sexualité des autres, elle est souvent très obscène pour nous, alors que a priori chacun fait ce qu'il veut avec son corps, bien sûr, mais c'est pas encore tellement rentré dans les mœurs.
Non, totalement.
Voilà.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.